Hebdo, Mathias Golchani, Éric Bataillon.
Si l'on connaît l'attrait de Gustave Flaubert pour les méandres de la Seine et son débit lent et apaisant, on connaît moins sa curiosité pour le Nil majestueux. C'est ainsi qu'en octobre 1849, celui qui n'est pas encore l'écrivain illustre qu'il deviendra entreprend un voyage en Orient en accompagnant l'un de ses amis photographes. Son long périple en Égypte lui fera découvrir non seulement les temples emblématiques, mais aussi les crocodiles, les momies et les dames de petite vertu. Il écrira sur le Nil, qu'il descendra en conque, et alternera entre mélancolie et enthousiasme, comme le souligne Jean-Baptiste Chantoiseau, le commissaire de l'exposition sur Flaubert et l'Égypte, que propose jusqu'en juin les musées littéraires de Rouen, qu'il dirige. Un entretien à retrouver en podcast sur notre application Pure Radio. Bonjour Jean-Baptiste Chantoiseau.
Bonjour Éric Bataillon.
Dans quelles circonstances Gustave Flaubert s'est-il rendu en Orient ?
Alors, Gustave Flaubert entreprend à l'âge de 28 ans un grand voyage en Orient qui sera le grand voyage de sa vie et qui va durer 18 mois. C'est à l'initiative de son ami Maxime Ducamp, qu'il avait rencontré lors de ses études de droit, que ce voyage se dessine. En effet, Gustave Flaubert, qui rêvait depuis son plus jeune âge d'être écrivain, hein, ça a toujours été sa grande passion, venait d'écrire un long manuscrit sur la tentation de Saint-Antoine, qui malheureusement n'était pas une très grande réussite, d'après la lecture qu'il en avait faite justement à Maxime Ducamp, ainsi qu'à son ami Bouillet. Et suite à cette première déception, puisque ses amis lui disent « Mais en fait, ton récit, tu ferais mieux de le mettre à la cheminée plutôt que de l'envoyer à un éditeur », son ami Maxime Ducamp lui propose, un peu aussi pour lui redonner, comme on dirait aujourd'hui, le moral, de partir avec lui dans une grande épopée en Orient, puisque Maxime Ducamp avait une mission du ministère de l'Instruction publique. Il avait pour mission de photographier les grands monuments de la vallée du Nil en Égypte. Et il a proposé à Flaubert de l'accompagner.
Alors, le voyage débute à Paris le 29 octobre 1849, mais Flaubert ne touche le sol égyptien que le 15 novembre.
Tout à fait.
Oui. Le périple a été long, hein, 3 jours pour rejoindre Marseille, puis la traversée vers Alexandrie en transitant par l'île de Malte. Quelles sont les premières impressions de l'écrivain quand il foule le sol égyptien ?
Alors, quand il foule le sol égyptien, Flaubert est assez fasciné. Alors, il faut dire qu'il a beaucoup rêvé de l'Orient, et ça, évidemment, dans le contexte du 19e siècle, des années 1830, qui ont vu l'orientalisme se développer avec Chateaubriand, évidemment, un peu précurseur, et même avant Lord Byron. Donc, Flaubert est nourri de tout un tas de lectures.
Et puis, il y a eu l'expédition Bonaparte.
Et évidemment, suite à l'expédition Bonaparte aussi, les découvertes de Champollion dans les années 1820. Donc c'est vrai qu'il faut évidemment remettre ça dans tout un contexte. Flaubert, quand il est très jeune, écrit d'ailleurs dans une de ses premières nouvelles, Rage et impuissance, de son personnage, il rêvait l'Orient, l'Orient avec son soleil brûlant, son ciel bleu, ses minarets dorés, ses pagodes de pierre, l'Orient avec sa poésie toute d'amour et d'encens. Donc il faut voilà s'imaginer un Flaubert très rêveur. Alors quand il arrive en Égypte, il est très surpris par les paysages très différents de sa Normandie natale et en particulier du Nil qui lui paraît être un fleuve très calme comparé à la Seine qui est toujours animée d'un courant très fort qu'on appelle le Mascaret et que l'on connaît toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais il est encore plus violent au 19e siècle. Et il compare le Nil à une sorte d'océan plat, une mer d'huile. Il est évidemment très frappé par les reflets du soleil, l'atmosphère qui évidemment encore une fois est très chaleureuse avec ce ciel bleu extrêmement pur qui se reflète sur l'eau du fleuve. Donc ça c'est évidemment quelque chose qu'il note assez rapidement. Et si je vous parle du Nil plus particulièrement, c'est aussi parce que Flaubert part en Égypte avec cette idée de remonter aux sources du Nil. Donc on a effectivement cette croisière, on pourrait dire, qui va durer à peu près 4 mois sur le Nil et dont les paysages vont profondément le bouleverser et l'inspirer.
Il ne va pas simplement visiter les pyramides, le Sphinx et les autres temples, comme Abou Simbel par exemple, c'est pas ça son but finalement, son but c'est le fleuve, par comparaison à son fleuve natal, la Seine.
Alors effectivement, autant son ami Maxime Ducamp, qui on l'a dit, avait cette mission photographique, qui va donner lieu d'ailleurs à une des premières grandes publications illustrées à son retour d'Égypte. Maxime Ducamp, lui, est très intéressé effectivement, parce que ça fait partie de sa mission, par les photographies qu'il doit prendre des monuments, les pyramides, le Sphinx et les paysages de la vallée du Nil. Flaubert, effectivement, il dit qu'il souhaite être tout œil. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour comparer ce qu'il voit par rapport à l'érudition ou tous les livres qu'il a pu lire. Et d'ailleurs, c'est assez frappant quand on lit ses notes de voyage. Il fait relativement peu allusion au savoir scientifique, contrairement à d'autres récits de voyage de l'époque, qui est un genre littéraire où on essaie toujours de beaucoup documenter ce qu'on écrit. Flaubert, il est dans la sensation. Il dit à son ami Bouillet qu'il veut être œil tout bonnement. Donc avec cette idée de s'ouvrir effectivement sur l'atmosphère, sur le ciel, sur les paysages. Il est fasciné aussi par les rencontres qu'il peut faire avec évidemment les habitants. Il parle en particulier d'un garçon de 14 ans dont la voix était vibrante. Et là, c'est assez intéressant, dans ses écrits, il dit que ce jeune garçon est le produit de l'eau, du soleil des tropiques et de la vie libre. Donc sa fascination pour ces peuples, ces peuplades, élevés au soleil, à l'air libre et avec un certain sentiment de liberté qu'il fascine.
Et parmi les personnes dont il parle dans ses écrits, il y a l'Almé Kutchuk Anem qu'il rencontre à Esné.
Tout à fait.
Le 6 mars 1850 et qu'il rencontrera d'ailleurs à plusieurs reprises. À noter que la visite des prostituées sera fréquente pendant ce voyage. Est-ce que c'était une pratique habituelle à l'époque ? Pendant les voyages des Occidentaux en Orient.
Alors effectivement, ça fait partie du mythe et de la fascination pour celles qu'on va appeler les Orientales et ces femmes effectivement souvent courtisanes, danseuses également, qui vont effectivement beaucoup inspirer l'imagination et l'imaginaire des Occidentaux. Il y a notamment ce très beau passage où Flaubert décrit justement la courtisane Kutchuk Anem. Elle venait de sortir du bain, sa gorge dure sentait frais, quelque chose comme une odeur de térébenthine sucrée. Elle a commencé par nous parfumer les mains avec de l'eau de rose. Donc pour vous dire aussi également ces traditions différentes, la fascination aussi pour la danse qui va après beaucoup inspirer Flaubert, notamment dans Hérodias, quand il va décrire la danse de Salomé. Il va se souvenir évidemment de cette scène extrêmement lascive et propre à susciter l'émotion de Kutchuk Anem. Elle fait notamment la danse de l'abeille. La danse de l'abeille, c'est-à-dire qu'au départ, la danseuse est un peu raide, un peu droite, et puis elle fait semblant d'être atteinte par un insecte, et elle commence effectivement à se dandiner et à faire cette danse de l'abeille. Et ce qui est intéressant sûrement pour Flaubert, c'est qu'elle se déshabille progressivement un peu pour se débarrasser de l'insecte, et donc c'est une sorte de striptease, si on peut employer un mot plus actuel. Et évidemment, Maxime Ducamp, comme Gustave Flaubert, là pour le coup, les deux amis sont complices jusqu'au bout, vont avoir droit, comme on dit, aux faveurs de cette courtisane très célèbre.
Alors, l'écrivain visite Assouan, puis Abou Simbel. Là, il note « Réflexion, les temples égyptiens m'embêtent profondément. Est-ce que ça va devenir comme les églises en Bretagne, comme les cascades dans les Pyrénées ?» Gustave Flaubert était-il gagné par l'ennui pendant son voyage ?
Alors c'est vrai que le thème du voyage et de l'ennui font partie de la littérature flaubertienne. On pensera notamment à ce célèbre passage de l'éducation sentimentale où Flaubert, vous vous souvenez, dit « il voyagea ». Et après, il y a un point avec un blanc. Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies interrompues. Il revint. Donc c'est vrai qu'il y a toujours effectivement ce sentiment de la mélancolie liée au voyage qui traverse d'ailleurs toute la littérature de Flaubert. Et aussi, ce qui est intéressant, ce que vous venez de pointer dans cette question, et je vous en remercie, c'est aussi un peu cette anticipation. Alors là, on n'est pas encore évidemment dans les grandes périodes de masse du tourisme, justement qu'on appelle le tourisme de masse, mais on sent que là, il pressent effectivement que l'Égypte va aussi peu devenir un cliché. Hein. Il y a notamment également dans son journal ce passage où il se dit nostalgique d'un certain passé qui est déjà perdu. Finalement, dès le 19e, puisqu'il écrit « Mais où est passée l'antique cité des califes, jadis si forte et si pleine de vie, et qui maintenant reste plongée dans ses rêves du passé, où dort l'ennui et la lassitude des beaux soleils du midi, où est le temps des cavaliers arabes qui faisaient piaffer leurs chevaux, où est l'encens des mosquées du prophète quand on pouvait sentir le parfum des roses qui couvraient les terrasses ?» Donc il est effectivement, quand il voyage à la recherche d'un passé qui est évoqué dans les livres qu'il a pu lire et dans les rêves qu'il a pu faire. Et on voit effectivement que lors des traversées, il y a un moment donné, il a le malheur de tomber sur un compatriote normand qu'il ne s'attendait pas à voir, un ami de la famille. Et il se dit, mais on rêve d'une évasion qui n'est peut-être déjà plus possible. Et ça, c'est vrai que c'est effectivement présent dans ses écrits.
Néanmoins, fin avril 1850, puis en mai et juin, Gustave Flaubert continue sa visite. Il va visiter Karnak, traverser un désert, découvrir des momies, des crocodiles. Cela ressemble-t-il à un parcours initiatique pour lui ?
Alors, d'une part, il avait très envie concrètement de voir à quoi l'Orient ressemblait et sortir peut-être un petit peu de la rêverie qu'il pouvait en avoir. Hein. Il y a un autre passage dans son journal où il dit, mais finalement, on se fait une image un peu mythique, l'orientalisme, le désert, le sable, la plénitude. Mais l'Orient, c'est aussi la vie grouillante, c'est aussi ces marchés traversés par des chameaux, c'est aussi la saleté, hein. Ce sont aussi les puces de la courtisane, tout ce qui va faire aussi la couleur authentique, hein, au-delà de la couleur locale, cet Orient senti, cet Orient vécu, cet Orient très matériel. Et ça intéresse aussi beaucoup Flaubert, contrairement à ce qu'on pourrait penser, d'être un peu aussi dans la réalité. Mais au-delà de ça, je dirais que malgré tout, l'Orient lui a servi aussi à éduquer son regard dans le sens où, en étant tout œil, en méditant, alors en plus, il fait son voyage sur une cange, qui est l'embarcation classique qu'on utilisait pour remonter ou descendre le Nil. Et il y a un rythme assez lent, quand même, assez particulier. Les soleils couchants aussi, avec le reflet du désert sur l'eau, etc. Et il y a une sorte, je dirais presque, pour répondre à votre question, de purification du regard, de méditation, qui va l'amener à la fois à découvrir les sources du Nil, puisque c'était un petit peu le prétexte du voyage, mais au-delà des sources du Nil, les sources peut-être aussi de sa propre identité et d'un retour à soi dont il avait profondément besoin à 28 ans.
Vous écoutez Orient Hebdo, une émission magazine bi-hebdomadaire de RFI, mise en onde et réalisée par Mathias Golshani. Et nous sommes en compagnie de Jean-Baptiste Chantoiseau, directeur des musées littéraires de Normandie à Rouen, pour évoquer le voyage de Gustave Flaubert en Orient. Au moment de quitter l'Égypte, Gustave Flaubert écrit « C'est fini, j'ai dit adieu au Caire, c'est-à-dire à l'Égypte. Pauvre Caire, comme il était beau la dernière fois que je l'ai humé la nuit sous ses arbres. Alexandrie m'emmerde. C'est plein d'Européens, on ne voit que bottes et chapeaux. Il me semble que je suis à la porte de Paris, moins Paris. » Finalement, Jean-Baptiste Chantoiseau, ce voyage en Égypte l'aurait-il déçu ?
Alors, je crois qu'il revient d'Égypte avec quand même des souvenirs qui vont le marquer pour toute sa vie et qui vont profondément l'inspirer. C'est quand même en Égypte qu'il commence par exemple à réfléchir à Madame Bovary et qu'il imagine déjà le grand roman qu'il écrira à son retour. On peut penser à Salammbô aussi, bien évidemment, le grand roman oriental. Il dit quand même que pendant son voyage, il prend des notes qui lui seront utiles. Par exemple, il fait des descriptions très précises au Caire des parfums. La variété des parfums qui n'existe pas évidemment en Normandie. Et il dit, j'essaie de faire un catalogue exhaustif de tout ce dont je pourrais me souvenir. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir une vue trop tranchée des choses et pas non plus forcément prendre Flaubert au pied de la lettre, puisqu'il dit une chose, mais deux jours après, il est aussi capable d'écrire une autre chose. Donc, il faut être un peu nuancé et savoir prendre de la distance par rapport à ce qu'il écrit. Ce qui est vrai, en tout cas, c'est que Flaubert déteste les clichés, déteste les idées reçues. Ça va être un peu, vous souvenez, le dictionnaire des idées reçues, évidemment, et Bouvard et Pécuchet à la fin de sa vie. Et en tout cas, ce qu'il ne veut pas, contrairement à ce que vont beaucoup faire les voyageurs de l'époque, c'est publier un récit de voyage. Par exemple, publier son journal de voyage et rentrer un peu dans ces clichés qui peuvent être effectivement extrêmement déceptifs. D'ailleurs, les notes de Flaubert ne seront publiées que 30 ans après sa mort. Donc je crois que à la fois, oui, il y a cette part de mélancolie, mais que finalement, Flaubert porte en lui, qu'il soit en Normandie ou qu'il soit en Égypte. C'est assez amusant d'ailleurs, parce que quand il est en Normandie, il se plaint des ciels gris, il rêve d'Orient, il rêve justement d'évasion. Et quand il est en Orient, sur le Nil, il y a un passage très connu de sa croisière où il dit « Ah, je pense à ma maison en bord de Seine, avec ses volets blancs et cette allée des tilleuls. Oh, attendez-moi mes arbres et mes fleurs, que je puisse revenir au plus vite pour vous retrouver au printemps, tout bourgeonnant, etc. » Donc, finalement, c'est assez paradoxal. Il a la nostalgie de la Normandie en Égypte et il a la nostalgie de l'Orient en Normandie. Ça fait partie de la personnalité effectivement complexe de Flaubert et qui fait en même temps le charme de son écriture et des romans que l'on connaît.
Après l'Égypte, Gustave Flaubert poursuit son voyage en Orient. Où va-t-il ?
Alors, après l'Égypte, il va rejoindre le Liban, il passe par Jérusalem également, il va remonter également par la Turquie, Constantinople. Alors, il faut quand même préciser qu'il rêvait d'aller en Perse, hein, ça faisait partie un petit peu au début, évidemment, dans les préparatifs. Mais évidemment, voyager à l'époque, c'était quand même assez compliqué. Ils avaient quand même, Maxime Ducamp et lui, des malles qui faisaient 310 kilos chacune, donc évidemment... toute une équipe autour, des moyens financiers aussi assez conséquents. Donc voilà, pour tout un tas de raisons pratiques, matérielles, financières, et parce que sa mère aussi, avec qui il est en correspondance pendant tout son voyage, lui dit aussi qu'elle aimerait bien le revoir et elle s'inquiète pour sa santé. Donc pour ces raisons-là, le voyage est un petit peu écourté. Il arrive en Grèce aussi, un peu plus tôt que prévu. Il y a d'abord de très belles notes de son voyage en Grèce quand il traverse le Jardanus, les fleuves qui sont très, très intéressants. Et il finit par l'Italie, où il va rejoindre sa mère, et là où il va plutôt se régaler des musées. Et la fin de son journal est un descriptif très passionnant, mais plus érudit, peut-être d'une certaine façon aussi, des différents musées italiens qu'il va découvrir.
Ce voyage en Orient a-t-il eu une influence sur les écrits ultérieurs de Gustave Flaubert ? Rappelons qu'en 1851, donc juste à son retour d'Orient, il entreprend l'écriture de Madame Bovary.
Effectivement, alors... Madame Bovary, pour le coup, se situe en Normandie et nous présente effectivement le quotidien, comme vous le savez, d'une femme très déçue par son mariage et qui va devenir adultère. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire, effectivement, il y a certains moments quand même où Emma Bovary exprime ses rêves d'océan, d'infini, de plénitude, alors qu'elle est contrainte malheureusement à vivre dans les boucles de la Seine qui ont tendance à l'enserrer et à la rendre profondément triste. Donc il y a quand même, à travers les rêves qu'elle fait, peut-être des souvenirs un petit peu orientaux, si j'ose dire. Mais évidemment, c'est surtout dans le roman qui suivra, hein, Salammbô, où Flaubert va revenir avec la danse, et de Salammbô, les descriptions de paysages, du désert. Là, effectivement, on va plutôt retrouver l'Orient, d'une certaine manière, dans Salammbô. Et également, n'oublions pas les trois contes aussi, qu'il écrit vers la fin de sa vie.
Hérodias.
Avec Hérodias, tout à fait. La danse des voiles, ce thème à nouveau de la courtisane. Oui, je pense que l'Orient est resté très présent dans la vie et l'œuvre de Flaubert. Et n'oublions pas également La Tentation de Saint-Antoine, qui est un texte qui l'a poursuivi toute sa vie, hein, qu'il a écrit, réécrit. On a plusieurs manuscrits et qui raconte les tentations d'un ermite dans le désert égyptien qui doit résister effectivement à tous ces mirages et à toutes ces tentations diaboliques. Donc oui, je crois que Flaubert est resté hanté par l'Orient toute sa vie durant.
Merci Jean-Baptiste Chantoiseau.
Merci à vous pour votre invitation.
Directeur des musées littéraires de Normandie à Rouen, commissaire de l'exposition Miroir de la Seine chez Flaubert et au-delà, que l'on peut visiter jusqu'au 2 juin prochain au musée Flaubert et d'histoire de la médecine à Rouen.